Messieurs, dames, très ravie de vous retrouver en direct sur le studio Kalangu au micro. Diallo Mariama Kenda, bonsoir. Tout de suite, le point sur l'actualité nationale en France. Il est 18h, bienvenue. Les titres, 324 journalistes dans le monde entier ont été réduits au silence par le meurtre, souligne le comité pour la protection des journalistes CPJ, basé à New York, dans un rapport intitulé « Commettre le meurtre et s'en tirer impuni », rapport publié à l'occasion de la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes commémorée ce 2 novembre. Les représentants de l'opposition ont quitté hier le comité ad hoc chargé de faire des propositions relatives à la révision de certaines dispositions du code électoral, faute de consensus sur certains articles de l'organe mis en place il y a moins d'un mois. Enfin, dans la partie magazine de ce journal, nous parlerons de la réunion entre l'État du Niger et ses partenaires impliqués dans la réalisation du projet barrage hydroélectrique de Kandaji. Reprise aujourd'hui de la diffusion des programmes de la radio Sahara FM Agadez sur la même fréquence, finalement attribuée au promoteur actuel de cet organe, nous a confirmé l'intéressé Ibrahim Manzo Diallo, joint au téléphone par Studio Kalangu. Son signal avait été coupé le 15 octobre sur instruction de l'instance de régulation pour non-conformité à la procédure, car la fréquence était au nom du premier propriétaire de radio Sahara. 5 ans après, déjà, que Ghislaine Dupont et Claude Verlon, deux journalistes français de Radio France Internationale RFI, ont été assassinés à Kidal, au Mali, après avoir été enlevés par des hommes armés. Un mois, jour pour jour, que le journaliste saoudien Jamal Khashoggi disparaissait dans le consulat de son pays à Istanbul, en Turquie, tué par un commando qui serait sous les ordres d'un prince du royaume d'Arabie Saoudite. Tant de crimes impunis et commémorés en ce 2 novembre, journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes, occasion pour le comité pour la protection des journalistes CPJ basé à New York de publier un rapport intitulé « Commettre le meurtre et s'en tirer impuni ». Détail avec Alassane Kouzi Mahamadou.
Les 14 pays placés sous le feu des projecteurs cette année ont tous déjà figuré de nombreuses fois à l'indice depuis que le CPJ a commencé à recueillir des données en 2008 et la moitié d'entre eux y figurent depuis le début. Il ressort de ce rapport qu'au cours de la dernière décennie, au moins 324 journalistes dans le monde entier ont été réduits au silence par le meurtre. Dans 85% de ces cas, aucun meurtrier n'a été condamné. Pour la quatrième année consécutive, la Somalie se trouve en tête de liste. Parmi les pays qui réapparaissent à l'indice 2018, l'Afghanistan, où un groupe de journalistes a fait l'objet d'un attentat suicide avec 9 morts, et la Colombie, où des trafiquants de drogue présumés ont enlevé et tué une équipe équatorienne. L'absence de justice dans les meurtres des journalistes favorise l'enracinement d'un climat de censure, a constaté le Comité pour la protection des journalistes dans son indice mondial de l'impunité.
Le comité technique pour le numérique CTN a annoncé mardi à Niamey que le lancement officiel de la télévision numérique terrestre aura lieu le mois prochain avec une distribution gratuite de décodeurs à Zender à l'occasion de la fête de la République le 18 décembre. C'était dans un communiqué de presse paru dans l'hebdomadaire Sahel Dimanche de ce 2 novembre 2018, précisant aussi la mise à disposition bientôt des décodeurs sur le marché. Mais d'ores et déjà, 15 télévisions nigériennes sont sur le bouquet TNT Niger qui dispose d'une capacité de 20 chaînes. Il vous souviendra que le Premier ministre, président du Conseil national du dialogue politique, CNDP, a procédé le 5 octobre à l'installation du comité ad hoc chargé de faire des propositions relatives à la révision de certaines dispositions du code électoral, objet de discorde entre l'opposition et la majorité. Hier, jeudi, les 4 représentants de l'opposition politique se sont retirés du comité faute de consensus sur les articles 8, 12, 80 et 81 de l'organe mis en place par Brigitte Raffini. Écoutons les explications du député Koroné Massani, membre du comité au micro de Habibou Garba.
Il y a eu 4 articles sur lesquels on n'a pas trouvé de consensus. L'article 8, l'article 12, l'article 80 et l'article 82. Nous avons demandé une audience avec son excellence le Premier ministre. Nous sommes partis, tous les membres du comité. Dans son bureau, on lui a dit, voilà notre préoccupation. La CENI qui est actuellement opérationnelle, c'est une CENI d'un seul parti politique. Il nous a dit que la CENI sera formatée. On avait donc été réagaillardis. Au moment où on avait attaqué l'article 12, nous avons proposé une CENI de 29 membres, nous à l'opposition. Les non-affiliés ont proposé une CENI de 35 membres. Et eux, les gens de la majorité, ils ont un peu évolué. De 13, ils ont proposé une CENI de 19 membres. Et ils ont proposé un bureau de 6 membres, en conservant l'actuel président de la CENI et son vice-président. Où est le formatage? C'est en ce moment-là que ça a commencé à clocher. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on évolue. Ils ne veulent rien lâcher. C'est pourquoi nous pensons que ce n'est pas la peine de continuer à nous fatiguer.
La situation sécuritaire s'améliore dans le département d'Aïrou, région de Tillabéri, avec la mise en place d'un corridor humanitaire et la possibilité des déplacements sans crainte, a déclaré le préfet sortant du dit département. Diando Rishi Al-Gaher a aussi confirmé la présence de l'État un moment sur le terrain. Il est au téléphone avec Soumana Amadou.
Nous pouvons confirmer que la situation est toujours sous contrôle. La présence de l'État est effective. Depuis le 1er octobre jusqu'à la date du 13 octobre, nos autorités ont convenu avec les humanitaires d'ouvrir un corridor humanitaire pour faciliter à tous les partenaires humanitaires et aux missions même de l'État de circuler sans inquiétude. Toutes les ONG, tous les partenaires humanitaires, toutes les missions, en tout cas, désirant se rendre dans ces zones pour l'évaluation de la situation, des déplacés l'ont fait sans un croche, comme on dit. Donc tout s'est très bien passé. Et jusqu'à cette date, la situation continue à être stable, en dépit de quelques petits actes isolés qui sont perpétrés au-delà de notre frontière.
Le président de la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix, accompagné de plusieurs partenaires, était cette semaine à Bankilari, dans la région de Tillabéri, entretenir la population sur les questions sécuritaires et de développement ont motivé ce déplacement. Jean Japner, ambassadeur de l'Union européenne au Sahel.
Les bandits sont venus d'ailleurs, sont venus de Libye, sont même venus du Moyen-Orient. L'insécurité est arrivée, le terrorisme est arrivé. Et c'est devenu un fléau pour les pays du Sahel, pour le Niger, pour Tillabéri et pour cette région. Parce que vous êtes au croisement des trois frontières entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Parce que vous êtes dans une zone d'échange, parce que vous êtes une zone de coexistence et de rencontre extraordinaire entre des communautés Sonraï, des communautés Touareg, des communautés Peul, qui arrivaient toujours à se réconcilier même quand les choses allaient mal. Et à cause de ces bandits venus d'ailleurs, à cause de ces terroristes venus d'ailleurs, tout ça menace de se détruire, menace le Niger, menace le Sahel, menace l'Europe, menace le monde. Et donc, il est important qu'on travaille tous ensemble pour repousser cette menace terroriste. Dans les deux volets, il faut assurer la sécurité, la paix, pour que les gens puissent circuler normalement, et aussi le développement, pour que nous puissions progresser et apporter des solutions à la jeunesse.
Un propos recueilli par Youssouf Liwat, forum intercommunautaire de partage lundi à Agadez organisé par le réseau nigérien pour la gestion non violente des conflits genevicaux. Ce forum va permettre aux citoyens de partager avec les autorités leurs préoccupations en matière de sécurité, explique Lassane Ramatou, représentante du Genevico, au micro d'Anissi Karim.
C'est un forum qui permet aux citoyens de partager avec les autorités leurs préoccupations et leurs besoins en matière de sécurité. Le projet est mis en place dans deux régions, à Tillabéri, dans les communes de Bani Bangou, Abala et Sanam, et à Agadez, dans les communes d'Adabisnat, Ingal et dans la commune urbaine d'Agadez même. Effectivement, il y a 3 invités du Mali, donc les invités là viennent partager avec les autres jeunes leur expérience et comment ils ont catalysé, donné des conseils avec les participants. L'objectif, c'est de partager avec les autorités les résultats de ces focus groupes-là et de discuter de façon démocratique et transparente, notamment pour recueillir et identifier des actions de prévention, lutte contre les menaces d'extrémisme violent dans la zone. Donc, les recommandations et besoins vont être pris par la HACP pour les intégrer dans leur plan d'action concernant les communes d'intervention.
Nuit froide et au petit matin, température élevée l'après-midi, ce sont là les signes de l'Harmattan. La direction de la météorologie nationale du Niger nous apprend que les vents de l'Harmattan soufflent sur la majeure partie du pays, annonçant l'installation très proche de cette période de froid et de poussière au Sahel, le prévisionniste Ousmane Bawa.
À partir de ce matin même, ce sont les vents de l'Harmattan qui soufflent sur la majeure partie du pays, à l'exception des régions de Tillabéri, Niamey et Dosso, où quand même il y a un peu d'humidité. Il y a les vents de la mousson qui soufflent encore parce que le front intertropical, le FIT, est positionné sur les régions du fleuve. Maintenant, de façon drastique, on va observer des vents qui sont très secs et surtout, c'est des vents parfois qui sont forts en surface avec soulèvement de poussière. Pour les prochains 48-72 heures ou bien les prochaines semaines, l'Harmattan va s'installer véritablement avec des vents qui seront secs et froids. Donc une des particularités de l'Harmattan, c'est d'abord la réduction de la visibilité. Par exemple, ce matin, Magaria a passé 13 degrés Celsius déjà.
Ousmane Bawa demande aux populations de commencer à prendre des précautions contre les maladies climato-sensibles et surtout de protéger les enfants et les personnes âgées. La partie magazine de ce journal à présent est la 13e mission conjointe de supervision des partenaires techniques et financiers du programme Kandaji. S'est réunie du 29 au 30 octobre à Niamey. La réunion a passé en revue la faisabilité du projet, les différentes implications et les obstacles à juguler. Voici entretien accordé à notre reporter Soumana Amadou par Amadou Haruna, directeur général du projet Kandaji.
L'État du Niger et les 11 bailleurs de fonds du programme Kandaji se sont retrouvés lundi et mardi à Niamey pour faire le point de l'état d'avancement de l'ambitieux ouvrage. Le directeur général du projet Amadou Haruna parle des bonnes intentions des bailleurs mais aussi du déplacement entier de la ville d'Ayerou ainsi que des dédommagements prévus.
Le marché a été signé avec l'entreprise. Vous savez, même quand un marché est signé, il y a toute une procédure pour pouvoir commencer effectivement les travaux sur le terrain. Aujourd'hui, les dispositions sont en train d'être prises pour la mise en vigueur effectivement de ce contrat-là. L'entreprise est en train de se mobiliser. Déjà, son personnel est arrivé. Nous sommes en train de mettre toutes les dispositions et toutes les procédures pour que l'entreprise démarre effectivement les travaux. Nous le faisons en lien avec la réinstallation. Parce que vous savez, le risque aussi, c'est de finir les travaux alors qu'on n'a pas déplacé toutes les populations. On va rester là à regarder le barrage. Donc, c'est tout ça qu'on est en train de faire, la cohérence, pour que tout se fasse normalement.
Monsieur le directeur général, vous venez d'évoquer la question de la réinstallation des populations qui constitue l'une de vos préoccupations. Alors, à ce niveau, dites-nous qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui reste à faire.
Bon, et pour la réinstallation des populations, vous savez qu'on avait fait deux vagues. La première vague a été déplacée, c'est à peu près 8000 personnes qui ont été déplacées, ça a coûté 30 milliards de francs CFA. Et on a fait un audit de cette réinstallation-là pour pouvoir voir si tout s'est bien passé. Et là, on a encore un financement additionnel de la Banque mondiale qui est à peu près de 8 milliards pour bonifier cette réinstallation-là pour qu'elle soit très bien faite. Nous avons le deuxième groupe, ça c'est 50 000 personnes qu'il faut déplacer, c'est la ville d'Ayerou entièrement qu'il faut déplacer. Là, justement, cette réunion-là qu'on est en train de faire, là, nous sommes dans le processus. Nous avons fini l'estimation, nous avons fini tout ce qu'il faut faire, le nombre d'écoles qu'il faut construire, le nombre de classes qu'il faut construire, les aménagements hydro-agricoles qu'il faut réaliser, les compensations qu'il faut donner aux populations et tous ces besoins-là, nous avons estimé. C'est un montant assez important. Nous sommes justement en train de discuter maintenant avec les bailleurs de fonds pour la prise en charge de cette question. Et je dois avouer qu'on a eu des très très bonnes intentions des bailleurs de fonds et le document a été amélioré et je pense que nous sommes sur la bonne voie.
Quelle est la part de l'État du Niger en termes de financement du projet?
L'État du Niger est le premier bailleur de fonds de Kandaji. Parce que déjà sur le génie civil du barrage qui est estimé à 151 milliards de francs CFA, l'État du Niger contribue 25%. Et pour la réinstallation des populations, il y a une partie de la réinstallation, surtout les indemnisations des populations. La deuxième vague, ça va coûter aux environs de 16 milliards de francs CFA, c'est l'État du Niger qui va le prendre entièrement en charge, rien que pour l'indemnisation.
Fin de ce journal, place à présent au forum de la presse présenté ce soir par Alassane Kouzi Mahamadou. Bonne suite de programme.
Santé, sport, culture, initiative.
Tous les jours sur Studio Kalangou et Magazine.
Du lundi au vendredi en Tamachek à 17h12, en Fulfulde à 17h27, en Hausa à 17h42, en Germa à 17h57 et toute la semaine en français à 18h12.
Studio Kalangou au rythme du Niger.